On va parler de la pandémie, vous le savez, à 17h30, point de presse du trio santé. On va un peu nous lire la loi de l'émeute, je pense. Là. On va détailler ce qui va se passer dans les zones rouges que vont sans doute devenir Montréal et Québec. Qu'est-ce qui va être ouvert? Qu'est-ce qui va devoir ralentir ses activités? Qu'est-ce qui va fermer? On va voir le détail de ça avec messieurs Arruda, Legault et Dubé. Mais en attendant, on va parler avec Dr Kwok Din Nguyen. Il est interniste gériatre au CHUM, doctorant en épidémiologie à l'Université McGill. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'au printemps, le gouverneur du Québec l'avait nommé président du comité de lutte à la COVID dans les milieux de vie des aînés, qui est son champ d'expertise. Dr Nguyen, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
OK, dites-moi. D'abord, on va commencer avec avec le message de communication là, que le gouvernement a lancé. M. Dubé a parlé d'un effort de 28 jours la semaine passée. Et là, le gouvernement s'est mis à parler d'un défi 28 jours, comme après Noël, là, quand on nous dit qu'on ne va pas consommer d'alcool pour le défi 28 jours. Est-ce que c'est une bonne stratégie de com', vous pensez?
Écoutez, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Un 28 jours, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut prendre acte des 800-900 cas qu'on a au Québec, par jour, et il faut faire quelque chose. Là, la question, c'est est-ce que le choix de la métaphore du 28 jours est un bon choix? C'est sûr que pour moi, l'impression que ça donne avec un virus qui peut suivre les tendances saisonnières, puis avec la grippe qui est un autre virus respiratoire, c'est que l'effort qu'on devra déployer au Québec risque d'être beaucoup plus long que 28 jours. Donc, peut-être 28 jours, c'est une façon de faire avaler la pilule pour commencer, mais de penser qu'après 28 jours, on va pouvoir recommencer comme c'était avant, c'est difficile à croire.
Donc, on est peut-être mieux pour rester dans les métaphores qui touchent l'alcool puis l'abstinence, peut-être mieux avec la stratégie des AA puis de prendre ça un jour à la fois.
Oh, probablement une stratégie au moins AA soft. C'est pas du tout ou rien, là, mais quand même, de comprendre que c'est dans la durée.
OK. Dr Nguyen, je vous connaissez le réseau, vous travaillez dedans, mais vous avez aussi présidé un comité là, qui conseillait le gouvernement au début de la COVID. Je veux vous entendre sur la résilience du réseau de la santé et des services sociaux. Pensez-vous que ce réseau-là est prêt pour la deuxième vague?
C'est sûr que notre réseau de la santé, parce qu'il coûte cher, bien évidemment, on va l'optimiser au maximum. Ce qui veut donc dire qu'en temps normal, les gens ne sont pas supposés de rester à se tourner les pouces. Puis ça, je vous dis ça, c'était même avant la pandémie. Mm. Puis on parle des milieux de vie pour aînés, bien c'est sûr qu'on parle de manque de personnel chronique. Ça, c'est encore une fois avant la pandémie. Maintenant qu'on a la pandémie, que la pandémie impose plus de soins. On parle de tester, on parle de tracer des gens, on parle de soigner des malades. Si on met tout ça ensemble sur un réseau qui est déjà fragilisé, bien c'est sûr que on peut avoir cette impression qu'il manque de résilience. J'utilise souvent la métaphore des personnes âgées, là, une population que je connais très bien. Si on leur demandait d'aller courir un 10 km là, demain, c'est sûr qu'ils auraient beaucoup de misère, alors que quelqu'un de plus jeune qui a beaucoup de réserves en serait capable. Mais il faut se demander si notre réseau, bon, par bout, ne serait pas plus comme une personne âgée avec moins de résilience, puis moins de réserve. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette réserve-là pour la deuxième vague?
Donnez-moi un exemple de manque de résistance, de force du réseau de la santé et des services sociaux.
Bien, écoutez, si on prend juste l'exemple, on prend deux exemples. Si on prend, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, je pense qu'il en manquait. C'est sûr que les gens avaient des soins au moins acceptables avant la pandémie, mais certainement pas optimaux. La pandémie arrive, il y a des personnes absentes, il y a plus de soins qui est nécessaire parce que bon, les gens sont déshydratés, etc. Là, on a décidé, bon, on va amener 10 000 préposés, puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. Là, on compare ça avec les infirmières, par exemple. On sait qu'il manque d'infirmières, on parle de temps supplémentaire en grande quantité. Et là, néanmoins, on n'a pas nécessairement augmenté le nombre d'infirmières parce qu'elles ne sont pas nécessairement faciles à former. Ça prend plus de temps. Mais je rajouterais néanmoins qu'en ce moment, les infirmières ne font pas que des tâches nursing. Elles font beaucoup d'autres choses. Là, on parle de tracer des gens, tester des gens. Et je pense que ces tâches-là, pour augmenter la résilience du réseau, devraient être confiées à peut-être un bassin de population ou un bassin de travailleurs externes au réseau, de telle sorte à le rendre, d'avoir plus de bandes passantes, finalement. Là.
OK. Docteur Nguyen, il y a beaucoup de questions de données. Okay? On dit que le gouvernement n'a pas des bonnes données par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, on n'a pas un très, très bon portrait de où surviennent les éclosions. Qu'est-ce que ça entraîne comme, disons, qualité de réponse?
C'est sûr que ça rend ça difficile. Probablement maintenant que Montréal et Québec vont entrer en zone rouge, on est obligé d'imposer probablement des mesures assez robustes, assez fortes. Puis parmi les plus fortes, c'est sûr que c'est de réduire le nombre de contacts entre citoyens puis entre amis et entre proches familles. Si on avait des meilleures données, puis que ce soit des éclosions ou que ce soit dans les écoles ou dans les CHSLD, on serait probablement capable d'être un peu plus chirurgical. À la place de faire des mesures qui sont pan-québécoises ou régionales, on pourrait y aller davantage par activité bien précise. Là, je parle, est-ce que la proportion qui serait due à des écoles particulières au secondaire, au primaire, la proportion qui serait due très précisément au CHSLD, au RI, au RPA, donc des milieux de vie pour aînés. Donc, avoir les données pour un épidémiologiste ou pour des gens de la santé publique, c'est comme avoir des tests de laboratoire. Là, on ne s'imaginerait pas aller voir un médecin puis pas nécessairement avoir nos prises de sang. Et pour un épidémiologiste, ne pas avoir de données, c'est un peu comme travailler en l'absence d'informations pertinentes extrêmement importantes.
Non, mais est-ce que vous me dites que le gouvernement est pas capable d'avoir des données précises sur ce qui se passe sur le terrain à propos de la pandémie?
Je vous dirais, il y a certainement des difficultés à les avoir de façon accélérée et rapide.
Ce qui est important.
Oui, et de façon à réagir aux données. Puis je pense qu'on est, le système de santé fonctionne sur une base annuelle ou disons par trimestre et autres. La pandémie impose qu'on agisse en termes d'heures ou de semaines ou de jours, mais probablement au plus en termes de semaines. Puis les données, la façon qu'elles sont collectées, c'est pas comme si c'est des données qui existaient déjà. Hein. Toutes ces données-là doivent souvent être rajoutées à... Je parle pas nécessairement de la santé publique en général. Je vous parle plus des hôpitaux, des écoles. C'est pas des endroits où d'habitude on collecte les milieux de vie pour aînés puis les écoles. C'est pas des endroits où d'habitude on collecte beaucoup de données sur le nombre d'infections. Là. Donc, peut-être un autre petit point aussi, c'est que s'il n'y a qu'une ou deux écoles affectées ou au début de la pandémie, un ou deux CHSLD, ne pas avoir des données en temps réel, c'est pas très grave parce qu'on est capable à la mitaine d'y arriver. Mais là, on parle de pandémie, d'épidémie généralisée, bien c'est sûr que ça nous prend une infrastructure de données beaucoup plus forte.
OK. On n'est pas capable de savoir, le gouvernement semble pas capable de savoir le nombre d'éclosions dans les écoles. C'est un citoyen privé qui fait ça là, à la mitaine. Qu'est-ce que ça dit sur, disons, la qualité des données qu'on a au Québec pour agir?
Je dirais, il y a deux éléments. Là, je pense que le gouvernement a quand même certaines données, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? C'est une deuxième question. Peut-être le petit point, c'est que je pense que la santé publique fait très bien son travail en termes de données populationnelles. Mais si je vous parle de ce qui est arrivé en CHSLD, c'est que souvent les CHSLD ne font pas nécessairement partie de la population générale. C'est-à-dire, elles ne tombent pas nécessairement dans les corps de la santé publique régionale de Montréal ou de Québec. Elles tombent un peu dans les CIS et les CIUS. Mais les CIS et les CIUS, puis la COVID, c'est pas nécessairement leur grande priorité par rapport aux hôpitaux. Ce qui fait que quand on met tout ça ensemble, ben, il n'y a pas personne qui est à la fin 100% responsable de collecter ces données-là, puis qui veut absolument les avoir pour prendre des décisions. Fait que quand les choses sont à l'interface de différentes directions ou différentes organisations, j'ai comme l'impression que ça peut tomber en deux ou trois chaînes.
OK. Docteur Nguyen, vous êtes gériatre, mais vous êtes doctorant en épidémiologie. Donc, les chiffres vous intéressent, là, les chiffres populationnels, comme on dit dans votre domaine. Là, il y a rumeur de fermeture des bars. Mais les bars disent, écoutez, on demande des chiffres, on les a pas. Est-ce que le gouvernement, il va au pif ou vous pensez que le gouvernement a vraiment des chiffres qui montrent que les bars sont problématiques?
Je pense que le gouvernement a des chiffres. La teneur précise, il faudrait leur demander. Là, je n'y ai pas accès. Je peux vous dire que toute décision en santé publique est éminemment complexe. Les éléments qu'on peut utiliser, certainement, c'est les données internes qu'on a. Je pense qu'on peut aussi utiliser les données de d'autres pays, parce qu'on n'est certainement pas les seuls à vivre avec le coronavirus. Puis dans les données des autres pays, puis qu'on voit publicisées dans les articles, les bars sont certainement des milieux où il y a transmission. Là. Puis je pense que ça ne surprendra pas Puis peut-être une petite question, un petit point de précision important, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui font des rassemblements privés que des gens qui vont dans des bars.
Oui, et le gouvernement n'arrête pas de dire que c'est ça le problème.
Mais il y a plus de gens en nombre absolu. Là, j'avoue que j'ai pas la proportion. Hein. Disons pour 10 personnes qui vont dans des bars, disons pour 1000 personnes qui vont dans des bars, combien s'infectent? Pour 1000 personnes qui vont dans des rassemblements privés, combien s'infectent? une des questions fondamentales aussi, c'est le ratio. C'est pas juste le en nombre oui, absolu.
Je comprends. OK. Vous savez, il y a des sceptiques de la COVID là, qui ont toutes sortes de croyances. Et ces gens-là, entre autres, disent, bon, OK, les cas montent. C'est vrai, les cas d'infection quotidien montent. Mais c'est pas dramatique au chapitre des hospitalisations puis des soins intensifs. Puis je dois vous dire, c'est un des rares points sur lesquels je dois leur donner raison.
Vous avez raison. Moi aussi, je leur donne raison pour l'instant. Effectivement, l'idée, c'est le principe fondamental de toutes les mesures de distanciation et les mesures sanitaires, c'est d'éviter une surcharge massive du système de santé. Et donc, les mesures du fonctionnement du système de santé, c'est les hospitalisations et, bon, les décès. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où on a un cas, c'est-à-dire les hauts chiffres qu'on voit, et le moment où il y a eu la transmission, il se passe déjà une semaine. Entre le moment où on a un cas et une hospitalisation, il se passe une à deux semaines. Puis entre le moment où on est hospitalisé et on va aux soins intensifs, il peut encore se passer une semaine. Puis du moment des soins intensifs jusqu'au décès, dépendamment de l'âge, ça peut être de une à trois semaines. Ce qui veut donc dire que si on attend vraiment des chiffres fiables de décès, ben alors là, on va être nettement en retard. Puis avec un virus qui se transmet aussi vite que la COVID, c'est-à-dire des cycles de génération de transmission de 5 à 7 jours, bien, on va se retrouver complètement débordé si on attend les décès. Deux autres petits points importants, c'est que c'est vrai que l'épidémiologie est différente. Les gens sont nettement plus jeunes et il ne fait aucun doute que les jeunes sont beaucoup moins malades que les personnes âgées. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont aucune conséquence, mais ils sont moins malades. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, il va avoir besoin d'avoir beaucoup plus de cas avant qu'on ait un système de santé complètement surchargé, soins intensifs. Le problème, c'est qu'on sait que les jeunes vont finir par infecter des personnes âgées. Puis ça, c'est démontré hors de tout doute là aux États-Unis, quand ils suivent la progression des infections dans des universités. Ça prend 2 à 3 semaines avant que ça se rende aux grands-parents.
Ça change de génération fatalement, c'est ça?
Exactement. Puis c'est sûr que si on attend que ça change pour réagir, ben là, vous imaginez la masse de jeunes infectés et la masse de personnes âgées infectées. Et ce virus-là, là, la science nous dit que ça va prendre, disons, quelques semaines. Donc, avoir des cas à la tonne, c'est d'avoir des décès à la tonne par la suite, et il n'y a absolument rien qu'on peut faire entre le moment où on a beaucoup de cas et les décès qui s'en suivent. Donc, il vaut mieux agir plutôt que tard.
OK. Je vais vous poser une question bien, bien simple. J'espère une réponse bien simple, Dr Nguyen. À Noël, est-ce qu'on va être plus dans le pétrin que maintenant?
J'aimerais vous donner une réponse simple, mais je voudrais quelque chose comme prédire ce qui va arriver avec le coronavirus. C'est prédire le comportement humain, puis ça, c'est pas simple. Je me cache un peu derrière ça. Puis s'il faut que je réponde oui ou non, j'ose espérer que si on arrive à casser après 28 jours beaucoup les cas, ça voudra probablement dire qu'on a un certain contrôle puis assez de jeu. Mais il y a la grande incertitude de l'augmentation de la contagiosité qui risque de venir avec les gens à l'intérieur à mesure qu'il fait de plus en plus froid. Puis ça, c'est une variable sur laquelle je ne suis pas capable de me prononcer.
Donc, vous, ça ne vous énerve pas quand vous voyez des gens qui sont dehors dans des rassemblements parce que c'est dehors?
Ça m'énerve beaucoup moins. Là. C'est sûr que si les gens s'embrassent, s'enlacent, ça m'énerve un peu, mais beaucoup moins que si c'était à l'intérieur. Là. Je pense qu'il y a trois facteurs importants là, quand on parle de transmission. Un, c'est sûr que c'est la durée de contact, la ventilation, puis le type d'activité. Ouais. Fait que des becs langoureux, c'est pire que rester en silence à se regarder puis méditer ensemble. Puis manger à l'intérieur, en proximité, c'est pire que d'être dehors puis se promener.
Bon, mais écoutez, méditons ensemble. Merci beaucoup, Dr Nguyen.
Ça me fait plaisir.